Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de
François Lambert, un dragon pas comme les autres.
Hey, salut François.
Salut.
T'as de la suite dans les idées. Hier, on se parlait de livraison. Là, aujourd'hui, tu nous parles d'un rapport sur le futur du commerce au détail Montréal qui suggère d'imposer une taxe sur les services de livraison.
Ouais, ben c'est pas, tu sais, c'est la livraison, c'est pas le lien, c'est avec hier. Tu sais, c'est que la ville de Montréal est prise avec un déficit et le modèle d'affaires de la ville de Montréal fait défaut. C'est basé sur des tickets, sur des stationnements. Comme beaucoup de villes, puis les taxes foncières. Mais les dépenses sont tellement élevées qu'au lieu, tu sais, dans une entreprise, quand ça va mal, qu'est-ce que toutes les entreprises font, je veux dire, sans exception?
Mettre du monde dehors.
On regarde les dépenses. Mais pas vraiment de mettre du monde dehors. On regarde, OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce que les gens sont productifs? Est-ce qu'il faut rationaliser? Dans les villes, dans les gouvernements, on dit austérité. Alors que c'est pas de l'austérité, c'est de la gestion, puis dire, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que les services qu'on offre aux citoyens, parce que la Ville de Montréal, les fonctionnaires sont faits pour ça, hein, donner un service, pas un service à eux pour eux, mais un service aux citoyens qui habitent la ville. Donc, on doit se poser ces questions-là dans des moments de crise comme on vit en ce moment. La Ville ne se pose aucune question, ne coupe absolument personne, fait des choses comme si on vivait dans une autre bulle et la dernière invention, et de dire, ah ben regardons ça, il va y avoir moins de commerces dans les rues parce que les commerces vont aller s'établir en banlieue pour venir livrer des produits. On devrait taxer ça, la livraison des produits. Mais Geneviève, dans quel monde qu'ils vivent? Tu sais, à un moment donné, on rit de la gauche, on rit de la droite. Là, à un moment donné, on devrait embarquer juste dans un monde de gros Monsanto qui est de gestion.
Attends un peu, François. J'ai comme une question là avant qu'on oui. s'excite le poil des jambes avec la suite. C'est quoi les indices en ce moment tangibles qu'on a pour se dire qu'il y a des commerces qui vont aller s'installer en banlieue? C'est quoi? C'est le prix des loyers? C'est sérieux?
Non, ben c'est parce que c'est que le document est rempli de pourrait. Hein? C'est beaucoup à l'imparfait. L'imparfait?
Ouais. Le conditionnel, François. Pourrait.
Conditionnel.
C'est...
Ouais. Conditionnel, oui.
Mais c'est pas grave, je t'aime quand même.
C'est correct. Ça fait partie de
ton charme.
De mon personnage. Les gens aiment bien ça, dire que je suis un personnage, je ne le trouve pas, mais revenons à la. OK. Donc, ils disent, écoute, le commerce en ligne, donc, il ne va pas s'installer sur la rue Saint-Laurent. Donc, il devrait aller s'installer dans une place probablement autre que Montréal. Donc, probablement qu'on devrait peut-être, dans un conditionnel imparfait, perdre des taxes. Donc, pour être à l'avant-garde, être avant-gardiste, puis bâtir la ville du 21e siècle, parce que c'est ça qu'ils disent dans le rapport, à ce moment-là, on va changer des taxes à toutes les livraisons parce que ça va affecter nos rues. Nos rues vont être de moins bonne qualité parce qu'il va y avoir trop de passages qui vont venir livrer des produits. On est dans l'imagination extrême. Mais à un moment donné, Geneviève, c'est qu'il faut gérer la ville. Et gérer une ville, c'est aussi de la rationaliser, de regarder tous les services. Dans une entreprise qui est en croissance ou pas en croissance, pour qu'elle ait du succès à long terme, cette entreprise-là, il faut revoir les postes au moins aux 18 mois. Se questionner dans n'importe quelle entreprise, est-ce que ce poste-là est encore...
Oui, mais une ville, c'est pas une entreprise. Il y a du fonctionnariat, il y a des syndicats. Tu peux pas gérer ça comme ça. Là. Où est-ce qu'il faudrait couper?
Tu peux gérer ça. Mais Geneviève, regarde les petits villages. Hein. Ouais. Les petits villages, ils manquent de taxes. Ils vont couper rapidement la personne de trop, peut-être à la voirie. Ils vont le faire parce qu'ils sont capables de les compter. Ils sont capables de les voir. Ils sont capables de regarder les revenus qu'ils ont. La ville de Montréal s'est rendue tellement un gros monstre. Moi, la dernière fois qu'on a fait des coupures, alors qu'on devrait le faire en ce moment, là. On devrait le faire. Les citoyens n'utilisent pas les mêmes services. On donne pas autant de tickets parce qu'ils peuvent pas en donner. Il n'y a rien qui a changé. On crée des nouvelles escouades. On crée un nouveau poste pour le racisme systémique. 177 000 $ Ils vont créer 5-6 postes avec ça.
Je vais pas te contredire, François, mais la Ville de Montréal a procédé à des compressions de 123 millions de $ pas plus tard qu'en avril dernier. Et un gel de salarial de ses employés. Fait quand même, Valérie Plante fait des affaires, là.
Ben, j'ai beau fouiller, et où cette nouvelle-là? Là, j'ai fouillé quand même avant, mais...
La Ville de Montréal annonce des compressions de 123 millions de dollars et un gel salarial à ses employés. La municipalité fait effectivement face à une baisse importante de ses revenus par rapport à la pandémie. C'est en avril qu'ils ont fait ça, donc ça fait pas si longtemps parce qu'on prévoyait des pertes de 93 millions de dollars. Puis ça, c'était une projection optimiste. On est plus autour de 281 millions en ce moment. Donc, on fait des choses quand même à la Ville de Montréal, mais est-ce que c'est assez, si on peut poser la question, parce qu'on sait qu'on s'en va dans un groupe financier, que le centre-ville est vide.
Mais on l'est, là, c'est 263 millions que le gouvernement vient de leur donner. Il reste qu'il faut se poser des questions sérieuses et continuer à taxer, à surtaxer, puis à rajouter des taxes. Les citoyens de la Ville de Montréal paient quand même une surtaxe pour l'essence. Hein. Faut pas l'oublier déjà. Là.
Ben, c'est normal en même temps.
Pourquoi eux plus qu'un autre? Pourquoi je paye mon essence différent dans le fond du rang chez nous.
Mais en région, il n'y a pas une prime d'éloignement parce que justement, on n'est plus dépendant des transports qui sont à l'essence. On n'a pas de transport en commun, donc on subventionne ça. À Montréal, on a tout ce qu'il faut pour prendre le transport, puis malgré tout, on prend le taux, donc ils essaient de stimuler le transport collectif. Je dis ça de même.
Ouais, on a peut-être tous les transports collectifs qu'on veut sur le plateau à Outremont, Ville-Marie. Je suis pas sûr que tu as tout ce qu'il faut dans un délai respectable si tu habites.
Ah, c'est clair.
À l'ouest de la ville.
Non, il faudrait qu'on déploie davantage notre métro, mais ça explique les disparités entre le prix de l'essence. Il y a une prime d'éloignement.
Non, mais c'est que les Montréalais sont déjà surtaxés un peu partout. Et en rajouter un sur des suppositions, c'est de montrer que les gens de la ville avec... Ça vient de la direction tout le temps, là, faut pas l'oublier. Avec la mairesse qui n'est pas capable de gérer son budget... Ben, il propose que des augmentations salariales, pas des augmentations salariales, que des augmentations de taxes constamment. C'est parce que la ville, elle va payer le prix longtemps de ça. À chaque fois que je vois des nouvelles comme ça, je me dis, hey boy, que le prochain maire va en avoir tout un job, ses bras pour récupérer tout ça. Et l'affaire, c'est qu'un coup qu'on a rajouté une taxe, on l'enlève jamais et on met une infrastructure alentour de ça. Regarde, on va s'en reparler peut-être amicalement, dans 5 ans, on regardera le département du racisme systémique comme il va être gros, ce département-là.
Ben, je sais pas, François, mais je pense pas que la mairesse Plante a retrouvé Montréal dans un état qui était quand même assez enviable au début de son mandat. Puis même, je dis ça en étant pas la plus grande femme de la mairesse Plante. Mais attends, je veux qu'on se parle parce qu'il nous reste pas grand temps. Tu voulais me parler de la première femme à la tête d'une grande banque, cette banque étant la Banque Laurentienne. Je trouvais ça cool qu'on parle de ça.
Oui, ben écoute, tu sais, tu me connais, moi je suis fait pas de différence un homme, une femme, la couleur de la peau, mais je trouve ça intéressant parce que la Banque Laurentienne est la plus petite banque au pays.
Oui, c'est pas une vraie grande banque. Faut le dire.
C'est pas tout à fait. Puis là, on dit bon, c'est la première femme parce que Monique Leroux compte pas parce qu'elle faisait partie d'une coopérative.
Oui, Desjardins, oui.
Desjardins. Il y a eu une première femme, il y a des premières femmes un peu partout, mais il reste que c'est seulement dans le milieu bancaire, un milieu extrêmement homme. Mais seulement 2% des dirigeants sont des femmes mondialement. Et je trouve ça intéressant parce que la Banque Laurentienne est aussi la plus petite banque et aussi la seule banque syndiquée. Et ils n'ont pas de direction. Ils essayent de se trouver une direction. Ils sont dus parce qu'honnêtement, la Banque Laurentienne, s'ils ne changent pas...
Mais il me semble que ça perd des plumes depuis quelques années. Là, ils ont connu des jours meilleurs pour être polis. Puis je ne sais pas si la décision de s'informatiser au complet, là, j'avais parlé à l'époque à quelqu'un chez eux à ce sujet-là. Là, je ne sais pas si c'était l'idée du siècle. T'sais.
Ben non, mais le problème avec la Banque Laurentienne, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire avancer rien, que ce soit pour couper les caissières.
Pourquoi?
Des caissières,
à cause du syndicat?
Parce que c'est syndicat. Ben oui, ils ne sont jamais capables de passer. Ça s'en va tout le temps en grève. Et on le voit, elle n'a pas grande direction. C'est une banque qui, d'après moi, n'a pas plus que 5 ans de survie. Donc, de ramener du sang nouveau, de ramener une nouvelle... Bon, les femmes ont une façon de gérer l'argent qui est complètement différente des hommes.
Ça, c'est des études. Pourquoi? Mais parle-moi-en de ça. C'est quoi les différences?
Ben, ils sont moins risk-takers que les hommes. Les hommes, on aime ça prendre des risques. Et dans un monde syndical, la dernière chose que tu veux prendre, c'est des risques. Donc, je pense, pour sauver la Banque Laurentienne, une mentalité féminine peut peut-être aider parce que le syndicat ne le voit pas comme ça. Mais la banque, elle ne va pas bien et elle est due pour un sérieux coup de barre et je trouve ça le fun que ce soit une femme qui vient lui donner ce coup de barre-là parce que moi, je connais personne qui est à Banque Laurentienne. Absolument personne. J'ai jamais connu quelqu'un qui est à Banque Laurentienne, point. Je ne sais pas dans ton milieu, toi. Je ne sais pas qui est là, d'ailleurs. Je ne connais personne, personne, personne.
Mais toi, tu prédis la mort de cette banque-là d'ici 5 ans. C'est quand même pas rien.
Ben, écoute, une banque, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, il faut que tu aies des nouveaux clients, puis repeat business. Donc, des clients actuels, ils n'ont pas beaucoup de repeat business maintenant.
Merci, François. On se reparle demain.
Salut.
Bye.